Donc ce mois-ci, ce que je vais préparer dimanche, c'est un plat grec qui s'appelle tsunikopita, de tsuniktos bien sûr, qui signifie ortie, et pita, qui signifie pita. Donc c'est une sorte de tourte aux orties. Et j'ai pas trouvé d'ortie. Enfin, j'avais demandé aux différents vendeurs d'aromates et d'herbes fraîches sur les différents marchés où je vais s'ils avaient ça sous le coude ou s'ils ils pouvaient m'en mettre de côté pour la semaine prochaine, et ils m'ont dit non. Donc je me suis résolu à en acheter en ligne. Et je faisais un peu la gueule parce que de l'ortie fraîche en ligne, il y a des gens qui en vendent, mais genre, le moins cher que j'ai trouvé, c'était 10 € pour 500 grammes d'ortie. Donc je me suis résolu à l'acheter quand même. Et j'ai reçu la commande aujourd'hui. Et en fait, les mecs, ils m'en ont mis 2 kilos.
Ah ouais.
Donc j'ai 2 kilos d'orties fraîches à dépiauter maintenant. C'est cool parce qu'ils m'ont pas, ils m'ont, ils m'ont pas, ils, enfin, je paye le même prix, quoi. Donc d'un coup, ça devient beaucoup plus avantageux. Mais je me retrouve avec 4 fois plus que ce à quoi je m'attendais.
Tu verras comme c'est amusant de découper
5 agneaux innocents de présalé du Mont-Saint-Michel.
Un bon cuisinier peut faire
ça,
un
c'est bon de la bonne viande.
Bravo. La fête commence.
Bonjour, bonsoir si vous nous écoutez le soir, et bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Comment vas-tu, Bertrand?
Ben, ça va très bien, et toi, Thomas, la pêche?
La pêche, ça va plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est que La Grosse Bouffe?
La Grosse Bouffe, c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. C'est un podcast qui est bien écouté, bien sûr.
Et de quoi parlons-nous ce mois-ci?
Ce mois-ci, nous parlons du ridicule. Le ridicule en gastronomie. Ah ben pourquoi? Parce qu'on est premier sur l'actu, faut-il le rappeler. Et de deux, parce que bah, et toi et moi, de temps en temps, on aime bien être ridicule.
Ouais, ouais. La fausse raison qu'on avait derrière, c'est que dans quelques jours, semaines, aura lieu l'Eurovision.
Ah, mais oui.
Le grand concours de l'Eurovision. Une Eurovision un peu politique cette année, hein, puisqu'il y a des conflits dans le monde, tout ça. Non, mais l'Eurovision, c'est aussi surtout des costumes à paillettes et des chansons pop un petit peu over the top de Slovénie, qui, de notre point de vue bourgeois et contemporain français, peuvent sembler ridicules. Donc justement, ça nous permet d'explorer ce thème. Et avant de poursuivre, deux choses. Déjà, c'est quoi cette voix? C'est quoi cette qualité sonore? Pourquoi est-ce que tu sonnes bizarrement, Bertrand? Où es-tu?
Ah là là, parce que je suis dans le nord de la Somme, figure-toi, à la limite du Pas-de-Calais. Et que oui, c'est un épisode enregistré en distanciel parce que je ne sais pas m'organiser et que j'ai oublié de prévenir Thomas qu'en fait je serai pas là pendant 2 semaines pour cause de vacances familiales et que voilà, je suis pas le pro de l'anticipation.
Voilà, Bertrand a fait 100 lignes, voilà, qui l'a communiqué au professeur, donc c'est bon, il a été suffisamment grondé comme ça. Et d'autre part,
j'ai fait signer par maman.
j'ai pensé à toi en regardant la série Samuel, série animée Samuel sur Arte.tv. Et pourquoi j'ai pensé à Bertrand? Parce que
Bertrand n'est pas déjà, mais je sais pas.
Bertrand n'est pas un petit garçon de 10 ans au début des années 2000. Enfin, pas à ce que je sache, ou alors il est très bien déguisé. Et bien, tout simplement parce qu'à la fin du premier épisode de Samuel, il y a une interprétation de The Winner Takes It All de ABBA. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ways to play. Qui nous permet de nous connecter à l'épisode d'aujourd'hui, de façon complètement tirée par les cheveux, voilà. Parce que pourquoi, Bertrand, est-ce que cette chanson, pourquoi
c'est la chanson préférée de ma femme, tout simplement.
Voilà.
Et qui vit intensément chaque chanson d'Abba en soirée.
D'accord, très bien. Donc voilà pour la vie très personnelle de Bertrand. Rentrons dans le vif du sujet. Donc le ridicule, qu'est-ce que c'est, Bertrand?
Ben, c'est un film de Patrice Lecomte, bien sûr.
Ah, Bien sûr.
Ah, ben voilà, on est obligé d'en parler quand même.
Jean
Hein, Jean
Rochefort.
Fort, Charles Berling,
Bien sûr.
mais j'ai
D'autres
oublié le nom
gens.
de l'actrice. Putain, comment elle s'appelle? Elle est connue.
Fanny Ardant.
Mais non. Alors, il y a Fanny Ardant, mais la jeune première. Bon, son nom va me
Judith
revenir, bref.
Godrèche.
Ah, mais c'est Judith Godrèche.
Je crois, hein.
C'est Judith Godrèche? Ah, mais oui, tout à fait, t'as raison. Ah, mais j'ai
Donc
confondu
voilà.
alors. Ben voilà, c'est bon, on a
Un
tout.
film qui se déroule à la veille de la
Mais non,
Révolution
bah.
et qui se moque des pratiques de cour, de ce que Molière aurait appelé les précieuses ridicules. Et donc oui, tout ça pour dire que le film se moque justement de toutes ces précieuseries de la cour. Mais pourquoi? Comment? Est-ce que c'est... Qui se moque en fait? Qui se moque dans le film?
Bah, qui se moque, bah, c'est un jeune noble provincial qui débarque à la cour parce qu'il a une faveur à demander. Et puis bah, il débarque dans un univers qu'il ne connaît pas, donc il n'a pas les codes. Et du coup, il est un peu estomaqué devant tant de superficialité, devant tant de manières, devant tant d'artifices. Mais bon. Est-ce que on rentre dans le sujet en disant que bah il se moque parce qu'il ne connaît pas?
Oui, et je pense aussi que les personnes qui se moquent, c'est aussi les spectateurs contemporains du 20e puis 21e siècle, qui voient de loin,
Parfait.
par le spectre du cinéma, des pratiques bah, absurdes et ridicules pour les gens de 2024 ou 1993, je crois qu'il est sorti à la base. Bref. Tout ça pour dire que le ridicule, en fait, est extrêmement subjectif.
Voilà la
Voilà.
subjectivité.
Donc on va se moquer dans cet épisode de certaines choses, mais il faut rappeler qu'on parle d'un point de vue spécifique, de nous qui avons grandi dans une culture française de classe moyenne au tournant de l'an 2000, disons-le. Donc qui
On est des
avons...
enfants de l'an 2000, tout à fait.
Évidemment, demain c'est l'an
C'est nous.
2000. Et donc qui avons des préconceptions ancrées dans cet espace chronologique, géographique, culturel et sociologique. Et à chaque fois qu'on parle de ridicule, eh bien, il faut prendre tous ces éléments en compte. Et ce qui est ridicule pour certaines personnes ne l'est évidemment pas pour d'autres.
C'est un beau propos liminaire. Je suis bluffé par le cadrage du sujet.
Ben, c'est important parce que sinon... On va rappeler les échanges qu'on a eus par rapport à ce sujet, mais la grande crainte de Bertrand, c'était qu'on soit dans le jugement. Et parce que
Bah, quand
considérer
on
quelque
traite
chose
de
de ridicule,
ridicule,
voilà.
très vite on glisse dans le 100% jugement, quoi. C'est sûr. Et bon, bah, ça n'aurait pas énormément d'intérêt.
Donc voilà, on va essayer de ne pas trop déraper. Il y aura
Voilà.
probablement des dérapages.
Dérapage contrôlé, frein à main sur le parking du Leclerc, tranquille.
Voilà, c'est pas en roue arrière, en sens inverse sur l'autoroute. On
Voilà.
reste raisonnable. On est sur le parking du
Dans un
Auchan
environnement
de
safe.
Poitiers. Et donc justement pour dire que enfin, la perception du ridicule en cuisine notamment n'est pas propre à notre époque contemporaine. Tu avais des exemples en tête, Bertrand?
Mais tout à fait. Alors, j'ai envie de revenir à la culture classique parler donc du festin ridicule d'Horace et du repas ridicule de Boileau. Donc,
Attention, hein. On se fout pas de la gueule des auditeurs
des
auditrices, hein.
auditeurs. Ah bah écoute, on essaye de relever le niveau. Non, mais on
Qui
essaye.
baisse, qui baisse.
Oui, bah c'est sûr qu'il faut compenser avec certains autres épisodes qu'on ne citera pas. Mais disons quoi, ça fait une moyenne. Donc le festin ridicule d'Horace, donc Horace qui a publié des satires, donc toute une série d'ouvrages où il critique plus ou moins son époque. Donc là,
Quelle
c'est des
époque?
satires moins 29 avant Jésus-Christ.
Voilà, à
Donc
l'orée
pour la
de
deuxième partie des
l'Empire.
satires, voilà. C'est Auguste, si je ne m'abuse, qui est au pouvoir à
Tout
l'époque.
à
Et
fait.
donc, en gros, là, dans son court poème, donc là, c'est le poème 8 du livre 2 de ses satires, donc qui s'appelle Le Festin ridicule. En gros, l'histoire, c'est quoi? C'est il y a un hôte, donc Nasidienus, qui reçoit Mécène, Balatro et Vibidius à manger.
Balatro?
Balatro.
BALATRO.
Tout à fait.
Comme le jeu de cartes en ligne qui
Tu le
rend
connais?
tout le monde fou en ce moment. Non, non, mais c'est le nom d'un jeu
Alors, je ne savais
vidéo.
pas que ça s'écrivait comme ça. J'en ai entendu parler de ce jeu qui rend zinzin la Terre entière, mais oui. Du coup, ouais, BALATRO.
D'accord, excuse-moi, continue.
BALATRO. Et en gros, donc Nasi Dienus, il essaye de se mettre un peu au niveau, de se mettre dans la poche mécène Balatro et Vibidius. Et puis, il y a un petit décalage social et il essaye un peu de se hisser un peu à leur niveau, au niveau de Mécène, qui est le mec stylé en vue à l'époque. Et donc,
Un proche
l'assassin, en fait.
d'Auguste, un véritable proche d'Auguste, mécène, oui, qui a donné son nom au mécénat.
Et donc, en fait, c'est un poème assez court, que je n'ai pas lu en latin, comme tu t'en doutes. Mais en gros, c'est juste un gars qui raconte ce repas à Horace et puis qui raconte le déroulé. Et donc, il y a une description, enfin, Nasidienus, en fait, il en met plein la vue à ses invités. À chaque fois qu'il y a un nouveau plat qui arrive, il dit ah, donc ça, c'est ça, la recette, c'est ça. Donc, par exemple, il explique, il y a une lamproie qui arrive et il explique la sauce, tu vois, il dit, donc c'est de l'huile vierge de Vénafre, essence d'anchois d'Espagne, vin d'Italie, un vin de cinq feuilles, s'il vous plaît, ou tout le moins du bon vin de Chio, qui est versé quand la cuisson est parfaite, ajouté poivre blanc et de l'excellent vinaigre tiré du raisin de Lesbos. Bon, et à chaque fois, c'est ça, tu vois. Donc il en fait des caisses, etc., pour se mettre un peu dans la tradition de. Il vient de l'héritage grec qui veut que bah, tu décris en fait à chaque ingrédient et son origine, et ça prouve un peu que bah, d'une, tu as les moyens de te procurer des ingrédients qui viennent d'un peu partout dans le monde, et de deux, que tu es puissant et que ton empire est grand, juste d'un point de vue un peu plus macro. Donc, signe de
La macro, bien
puissance
sûr,
et.
hein.
Le macro. Donc, signe de puissance, signe de richesse. Donc il décrit tout ça et clairement les invités ça les fait chier donc du coup ils essayent de saouler un peu la gueule ils réclament plus de vin pour faire passer le côté chiant de leur hôte quoi donc il commence à être un peu bourré et puis là-dessus donc le mec il veut tout bien faire même les serviteurs ils sont bien peignés etc le mec veut très bien faire et en fait la catastrophe il y a une tenture qui est fixée au plafond qui tombe, et donc qui tombe au milieu des plats, et puis il y a plein de poussière qui tombe, etc. Donc l'hôte est
Catastrophe.
catastrophé, et par contre les invités, ils sont morts de rire. Il dit, ah bah tu vois, t'essayes de bien faire, etc., mais c'est un peu la condition humaine qui veut qu'il y a toujours un imprévu, etc. Donc ils essayent de, mine de rien, même s'ils sont un peu saoulés d'être là, ils essayent de le consoler un petit peu, mais bon, le mec quand même part en pleurant, donc il est quand même vraiment atteint. Et puis, bon, il le rassure, etc. Il revient, et ça marche, il le réconforte. Et il revient avec encore plus de plats, avec une grue au gros sel, dont les membres étaient saupoudrés de farine, l'oie et son foie farci de figues. Et sur ce même plat, des filets de lièvre, plus délicats sans doute que le rable absent, des squelettes de merle à demi brûlés, et des pigeons sans croupion. Et apparemment, est le comble du raffinement.
Donc il en rajoute, enfin il continue,
Il leur remet une caisse, etc. Et du coup, bah, ils en ont marre, en fait, et ils se cassent. Enfin.
C'est quoi la morale de l'histoire?
Bah, la morale, en fait, c'est une critique de l'excès, en fait, et du too much. Parce que si on recadre un peu dans le contexte, Horace était assez proche du mouvement d'épicurisme. Et l'épicurisme qu'on rapproche un peu trop souvent dans notre culture actuelle à l'hédonisme. L'hédonisme, c'est vraiment la recherche du plaisir. L'épicurisme, c'est l'atteinte du bonheur par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. Donc en fait, c'est aussi
C'est pas
gommer
dans
le
l'excès.
superflu, quoi. C'est pas d'excès
Ouais.
et c'est pas de superflu, pas de truc qui sert à rien. C'est-à-dire que le bonheur, tu l'atteins simplement et naturellement, en fait. Donc, typiquement, ce genre de raffinement, c'est trop et c'est ça qui est ridicule pour Horace,
Et
tu
donc,
vois.
est-ce qu'on trouve ce même genre de considération chez Boileau?
Bah, alors, figure-toi que donc, Boileau a écrit un court poème qui s'appelle Le repas ridicule en 1665 et qui s'inspire en fait directement des satires d'Horace. Donc en fait, lui, il décrit en fait dans ce poème un repas qui est organisé par un maître de maison qui, pareil, va en mettre plein la vue à ses invités. Mais là, le contexte est un petit peu différent parce qu'en fait, en gros, Boileau, enfin le narrateur, mais tu comprends à la fin du poème que c'est Boileau, c'est un peu le seul qui est un peu malin et il est entouré un peu de crétins et qui se laisse impressionner par la vanité du maître de maison qui n'a pas non plus les moyens de ses ambitions. Donc c'est là que la satire est un petit peu différente. Donc il dit donc sur ce point, donc il raconte comment ça le déroulé du repas et au cours du repas, il y a sur ce point un jambon d'assez maigre apparence arrive sous le nom de jambon de Mayence. Un valet le portait, marchant à pas compter comme un recteur suivi des quatre facultés. Donc là,
En
enfin,
alexandrin,
où il
quand
se fout
même,
un peu de sa
attention,
gueule,
hein.
en alexandrin, ouais, c'est Boileau. Et en gros, il dit, bon, bah voilà, il y a aussi le côté ridicule du service, de la mise en scène, où là, ils se foutent de leur gueule, alors qu'en plus, ça en vaut pas la peine, parce que le jambon est assez maigre, tu vois. Donc, il y a le double foutage de gueule, et puis en fait, ça épate en fait l'assistance. C'est-à-dire que les autres invités, ils sont épatés par cet artifice qui est là pour cacher finalement la piètre qualité du repas. Et puis là-dessus, le repas est bien arrosé. Et donc, comme le vin fournit le vin au plus muet fournissant des paroles, donc, tout le monde est bourré, tout le monde se met à parler de politique extérieure, intérieure, de poésie, de littérature, etc. Donc ça libère un peu la parole des imbéciles. Et on se met à résoudre tous les problèmes de l'humanité parce qu'on a un coup dans le nez et on est bourré au mauvais vin. Donc c'est un peu, en
Oui,
gros,
mais est-ce que tu passes pas un bon moment quand même?
Eh bien, pour Boileau, qui manifestement se situe en dehors de cette assistance, non, lui, il reste dans le côté, ils sont ridicules ces gens, tu vois.
Ouais.
Il profite pas, mais je pense que le reste de l'assistance passe un bon moment. Mais lui, il dit, voilà, en gros, il se moque de la vanité de l'autre, c'est un peu ça la morale, et aussi de la facilité avec laquelle on épate les nigauds, quoi. Et après, en fait, quand tu fais une analyse plus littéraire, à la fin, il dit que une fois que les gens sont tout bourrés, ils se mettent à parler de poètes et de littérature et ils se mettent à critiquer Boileau, quoi. À la fin, il le place, tu vois. Il dit, enfin, un peu sous un. Il se cache un petit peu, mais bon, c'est assez transparent qu'en fait, en gros, il n'aime pas qu'on le critique. Il l'a un peu mal pris, apparemment.
Ouais.
Donc, mais bon, ça n'empêche pas que sur la première partie quand même du poème, voilà, c'est plus le côté vaniteux du service qui crée le ridicule. Et ça, c'est quand même c'est une piste assez intéressante parce que je pense qu'on va en reparler.
Oui, le côté avoir des ambitions mais pas pouvoir s'y tenir, mais. Avant d'aller plus loin dans le propos, commençons donc. Tu as déjà bien dégrossi le sujet, c'est bien. Mais si je te parle à strictement parler de ridicule en cuisine, à quoi est-ce que tu penses, toi, outre ces œuvres littéraires que tu nous as citées?
Moi, je pense au concours de pâtisserie ou de cuisine, tu sais, au Bocuse d'Or et aux Coupes du Monde de pâtisserie. Là, ils font des trucs monumentaux et kitschissimes. C'est souvent de très mauvais goût, enfin, en tout cas de mon point de vue, hein.
D'un point de vue esthétique, ouais.
C'est souvent pas beau, mais c'est des prouesses techniques. Et au final, en fait, comme c'est des concours, bah c'est le côté technique en fait, le but est de mettre en pratique toutes les techniques les plus pointues possibles, et souvent au détriment du bon goût.
Mais non, mais alors. C'est intéressant que tu l'abordes comme ça. Mais ce qui est justement dans ce type de concours, ce qui est important, c'est que c'est une mise en valeur effectivement du savoir technique, mais c'est des savoirs techniques qui remontent à Charles Le Chauve. Donc, ben, même si ces concours ont lieu aujourd'hui en 2024, ils s'inscrivent dans un patrimoine culinaire, on va dire, qui ben, et foncièrement un peu passéiste. Et donc, à partir du moment où ton référentiel, c'est ça, certes, tu vas faire des catamarans en pain, en pâte à pain et tout ça pour le concours du meilleur apprenti boulanger, parce que j'en ai suivi des concours comme ça, et c'est vraiment arrivé. Foncièrement, de loin, c'est ridicule parce que c'est impressionnant, mais c'est ridicule. Je pense que c'est un des premiers points par lesquels on peut commencer le sujet, à rentrer franchement dans le sujet, c'est que la prouesse technique, c'est une preuve de swag. On est ridicule parce qu'on veut impressionner. C'est un des points que on retient de ce que tu as présenté avec Horace et Boileau. Et à une époque, par exemple, faire une gelée, c'était hyper compliqué, hyper chiant, parce qu'il fallait faire bouillir des pieds de porc et des tendons de bœuf, etc., pour extraire le collagène et la gélatine de ces parties animales, pour ensuite faire prendre je sais pas quoi. Et donc, une simple gelée, ça te prenait 2 à 3 jours. Parce que tu avais ce processus de faire bouillir les trucs, extraire le sucre, ensuite assembler un machin, et puis derrière, t'as ton entremets en gelée, qui était souvent plus de la décoration qu'autre chose. À partir du moment où la gelée, la gélatine, la feuille de gélatine industrielle a été inventée et donc a été répandue, donc à la fin du 19e, début 20e siècle, tu t'es mis à avoir une explosion de chefs et de pas chefs qui ont foutu absolument tout en gélatine. C'est l'âge d'or des aspics. Si vous suivez Top Chef cette saison, et notamment la Brigade Cachée, une des épreuves récemment, c'était l'œuf en gelée, qui est un truc absolument désuet maintenant. Enfin, c'est débile de faire un œuf en gelée en 2024. Pourquoi tu imposes ça? Personne ne veut manger ça, je pense. Parce que concrètement, c'est un œuf mollet ou dur, pris avec une macédoine et de la gelée, quoi. Donc, t'as un truc blobby que t'associes avec la mauvaise cuisine de cantine. Donc, l'imaginaire n'est pas ouf. Alors que dans les années 20, grande époque, les années 1920, pas les années 2020, grande époque d'innovation culinaire, justement, où t'as l'explosion de la gelée, on fait absolument tout en aspic et c'est trop cool. Et donc, tu as des recettes genre le camembert en aspic, où tu vas faire prendre un camembert dans un bloc de gelée. Et tu sers ça à tes invités et tout le monde est épaté. Donc, et comme toute mode, c'est amené à devenir ringard au bout d'un moment. Il y a un compte Twitter, je sais pas si ce compte existe toujours. Et ça se trouve, à la base, c'était une page Facebook et voilà, bref, qui s'appelle 70s Diner Party. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Et concrètement, c'est des photos de fiches cuisine américaines des années 60-70, donc très technicolore. Et où justement, tu as ce délire de très pop, où on va saturer les goûts et les couleurs. Et ça se traduit en cuisine, et donc c'est l'époque où on va planter ton jambon rôti, là, tu vois, le truc qui mange à Noël les Américains, on va le planter de tranches d'ananas avec des cerises confites aussi, pour avoir un contraste de couleurs et de saveurs incroyable. Tu vas avoir des choses vertes avec des choses oranges, des machins que tu verrais plus dans les assiettes aujourd'hui, quoi, parce que c'est too much, ça te crache aux yeux. Et mais c'était, encore une fois, à remettre dans le contexte, c'était trop cool d'avoir ça à l'époque. Et dernier point auquel je pense, avant les gelées, avant la cuisine technicolore, pendant longtemps, dans la cuisine française classique, tu avais des petites garnitures, donc en plus de ta pièce de viande ou de poisson en sauce, parce qu'on adorait ça au 19e siècle, tu avais souvent des petites pièces en pâte feuilletée, des fleurons, posés en décoration, en garniture sur ton truc. Et la raison pour laquelle il y avait ces morceaux de pâte feuilletée, c'était tout simplement parce que c'était extrêmement compliqué. Enfin, c'est toujours très compliqué à faire la pâte feuilletée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé chez vous, mais
en vrai, essayez.
Voilà, achetez-la toute prête, c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est des. Il faut faire des tours de pâte, etc. Et de laminer
C'est
du
long, c'est
beurre.
chiant et vous n'y arriverez pas.
Vous y arriverez peut-être et ça sera sûrement délicieux, mais vous aurez perdu au moins 2 heures de votre vie. Et donc voilà, si les gars faisaient des fleurons, c'était pour montrer qu'ils étaient balèzes en pâtisserie. Pour le maître de maison, c'était un moyen de montrer, t'as vu ce qu'il sait faire, mon cuisinier? Ça pèse, hein. Et aussi, ça montrait un côté pratique qui est celui de pouvoir maintenir ta pâte feuilletée froide. Parce que l'important dans la confection de la pâte feuilletée, c'est que ton beurre soit froid pour que ça fasse des couches bien nettes, etc. Et qu'à la cuisson, ça fasse le feuilletage. Donc, t'as ce côté prouesse technique qui, aujourd'hui, bon, ben, grâce à l'industrie agroalimentaire, a complètement disparu. Et tout le monde peut faire des fleurons. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a plus de fleurons sur. Ton magret de canard à la sauce au vin, je sais pas, et qu'on est passé à autre chose, mais et justement que avec le recul aujourd'hui, ce genre de truc nous semble ridicule, mais ça remet dans un contexte technique et culturel.
Moi, je n'ai pas vu la brigade cachée, l'œuf en gelée, là, mais c'est une idée de Pierre Gagnaire, du coup?
Ouais.
Parce que... Mais ok. Mais en fait, c'est un manque d'inspi, quoi. J'imagine la réunion chez Top Chef. Il dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire comme
Bah,
épreuve?
en vrai, je pense que c'est pas un manque d'inspi, c'est un défi technique. Parce que justement, comment tu réinventes un truc comme ça en 2024? Comment tu le rends sexy? Et ça,
Ah
bonne
ouais, c'est
chance, les
chaud
gars.
quand même. Ah ouais.
Alors, j'ai plus tous les éléments en tête, c'était pourtant la semaine dernière. Hein. Mais il y en a qui ont fait des gelées fines. Donc, genre limite des voiles de gelée, des trucs pris.
Ah ouais.
Agar ou Kappa, voilà. Donc c'est moins le blob que tu as dans un RPG japonais, et plus un truc un peu fin où ça va fondre, etc. Et tu vas avoir un jeu de texture. Même si fondamentalement, pour moi, ça reste ringard. Enfin, c'est chelou. Mais donc oui, je pense que c'est surtout la créativité et confronter de jeunes chefs à des techniques et des plats franchement désuets qui étaient mis en place.
Ok.
T'as l'air
Bah, ça fait pas
dépassé.
rêver en tout cas. Non, mais du coup, je suis tombé dans le vortex des images de 70s Dinner Party. Hein,
C'est une époque
RPG, là.
d'expérimentation encore, hein, voilà. On a brûlé les soutiens-gorge, mais maintenant on fait d'autres trucs avec la cuisine.
Mais honnêtement, il y a certaines images moi qui m'ont rappelé des souvenirs, alors pas des années 70, mais des années 90. Clairement, il y avait des trucs dans le même esprit, quoi. Des brochettes improbables plantées sur des trucs on ne peut plus improbables aussi,
Un
en forme de
demi-melon.
hérisson.
Voilà.
Ah, non, mais c'est. Ça m'a pas rappelé que des bons souvenirs.
Et donc une des explications qu'on donne pour tout ça, c'est évidemment en foutre plein la vue. Enfin, on l'a vu chez Horace, on l'a vu chez Boileau. Il y a un rapport de classe dans notre perception du ridicule.
Bah, de toute façon, c'est ça, hein. C'est pas que la gastronomie, mais à chaque fois, tu as quand même un rapport dominé-dominant que tu peux pas mettre sous le tapis. C'est celui qui trouve ridicule, c'est toujours le dominant, et avec ses critères à lui, quoi. Donc,
De mon côté, qui ne suis pas complètement dominant, des choses comme la feuille d'or, les plats dorés à la feuille d'or, la feuille
oui,
d'or
non, mais là, moi
qui.
je parlais hors gastronomie, tu vois,
Ah oui,
c'est
d'accord,
encore
oui.
un truc. Mais vas-y, vas-y. Alors, du coup, la
Oui,
feuille
non,
d'or, ouais.
la feuille d'or qui, on le rappelle, est de l'or pur, hein, techniquement, donc qui est inodore et sans goût. Qui n'a aucun apport nutritionnel et qui, quand c'est consommé, est excrété tel quel, c'est-à-dire vous faites caca de la feuille d'or, puisqu'elle n'est pas assimilée par le corps du tout. À quoi bon, à part rajouter littéralement du pognon sur ton plat?
Bah, alors moi je pense que c'est avant tout une expérience, puisque faire caca de l'or, avoir de la crotte dorée, c'est quand même un truc à faire une fois dans sa vie, tu vois. C'est... Mais à part ça, non, bah à part ça, c'est sûr que ça n'a aucun intérêt à en mettre plein la vue. Mais ça, c'était mon avis, tu vois, il y a pas si longtemps. Mais après, je me dis que comme aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de plats qui sont créés visuellement avant gustativement. Et en fait, c'est un apport de couleur comme des fleurs, finalement. T'as plein. Alors, je te vois hocher de la tête,
Non,
mais
mais continue, continue.
t'as quand même beaucoup de plats qui sont aujourd'hui visuels, enfin, qui ont des éléments qui servent que visuellement, quoi. Et notamment pas mal de fleurs. Alors, il y a certaines fleurs qui peuvent apporter quelque chose aromatiquement, qui peuvent apporter du goût, etc. Mais il y en a d'autres qui apportent rien du tout, à part de la couleur et des couleurs qui matchent bien avec d'autres éléments du plat. Bah, en fait, la feuille d'or, même si elle sert à rien, bah, ça apporte juste, ça peut rendre un peu plus joli, ça apporte de la brillance, ça apporte une autre couleur. Ça... Bon. Donc, alors finalement, c'est peut-être pas si inutile que ça, mais on est d'accord que c'est bien sûr que visuel, mais finalement, c'est pas plus ridicule que mettre une fleur qui sert à rien, sauf que c'est beaucoup plus cher, donc il y a le côté bling-bling. Je vais t'en mettre plein la vue. Mais même s'il y a des fleurs qui coûtent vraiment très cher. Mais bon, jamais autant que la feuille d'or.
C'est intéressant ce que tu soulignes, l'aspect esthétique. Ça fait penser aussi aux sculptures alimentaires, donc tu l'avais abordé avec les concours culinaires, mais c'est un truc qui remonte à au moins le Moyen-Âge où tu avais enfin, des sculptures alimentaires, des piles de trucs qui étaient posées sur les tables et qui étaient là juste.
Des châteaux forts en croûte, des pâtés en forme de trucs,
Alors pas, mais même des trucs qui étaient là juste pour être vus et pas pour être mangés. Genre des trucs à base de sucre et de safran, enfin des choses qui coûtent cher en plus quand t'es un seigneur médiéval, parce que le sucre il vient du bout du monde et ton safran encore plus. Et donc pour montrer que t'as du pognon, que t'es celui qui porte la culotte à la maison, bah tu faisais en plus des différents divertissements qui pouvaient avoir lieu lors du banquet. Tu avais ces pièces qui étaient présentées juste pour les yeux et qui montraient encore une fois le niveau technique du personnel que tu employais. Donc ça voulait dire que tu avais les moyens de te payer ce genre de service, etc., etc. Aujourd'hui, je dirais que par exemple les sculptures en glace, des trucs que tu peux avoir lors de banquets, c'est une pratique très américaine, hein, enfin très anglo-saxonne. Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça en France, mais ça reste de l'apparat, quoi. Certes, ça peut refroidir une coupe de caviar coincée dans le creux des reins du cygne que le maître d'eau aura sculpté, mais un pain de glace fonctionne tout aussi bien, je pense.
Bah, c'est sûr que c'est de toute façon, la sculpture sur glace, là, on est quand même sur un niveau de kitsch assez élevé, quoi. Mais bien sûr que voilà, c'est des choses qui apportent rien, mais voilà, qui sont faites pour en mettre plein la vue. Et bon, bah, c'est comme ça rejoint ce que disait Horace, c'est-à-dire le ridicule arrive avec la volonté d'impressionner, quoi. Mais le truc que tu racontes sur la feuille d'or, ça me fait penser, enfin, tu vois, le côté je vais en mettre plein la vue aux invités et je vais mettre du feuille d'or pour faire joli. Ça fait un peu, enfin, alors moi, ça me fait penser, ça, mon petit prisme à moi, ça me fait penser aux mots un peu compliqués que tu peux utiliser dans le vocabulaire du vin. C'est-à-dire que le vocabulaire du vin, quand même, est souvent jugé ridicule par pas mal de monde, parce que des mots compliqués, parce que tu mets des mots qui sur finalement des mots très très parfois très imagés sur finalement c'est sur du vin qui est du jus de raisin fermenté, donc voilà, disons que
Est-ce que tu as
qu'en
des
tant que
exemples?
caviste. En tant que caviste, moi, quand j'ai été caviste, je me suis fait calmer quand même plusieurs fois par des clients en disant oh, on redescend un peu là, t'as perdu. C'est du vin. Moi, je voulais juste savoir s'il était bon.
C'est quoi les expressions les plus grandiloquentes et ridicule que tu aies pu entendre, enfin les qualificatifs.
Bah, après, tu as le registre aromatique. Alors, tu as la grandiloquence, mais ça, j'y reviendrai après. Mais juste sur la qualification aromatique, donc juste des odeurs, tu peux avoir de tout, quoi. Et ça, c'est. Et moi, je trouve ça trop bien, mais tu peux avoir des trucs extrêmement, soit extrêmement précis, genre ça sent, bah, par exemple, un marqueur aromatique classique du Sauvignon blanc, c'est le bourgeon de cassis. Bon, bah, bourgeon
Ok.
de cassis, voilà, qui en a déjà senti dans sa vie? Bon, probablement une poignée de personnes en France, tu vois. Mais l'histoire du Sauvignon blanc, c'est intéressant parce que avant que ça soit bourgeon de cassis, bah, cette même odeur, on la décrivait autrement parce que, bah, en fait, il y a plein de manières de décrire une odeur. Et on la décrivait sous le terme pipi de chat. Qui, bizarrement, était bien moins vendeuse.
Ouais, moins sexy.
Mais en fait, c'est la même odeur, quoi. C'est-à-dire que ça désigne la même molécule aromatique. Mais donc, on a arrêté de dire pipi de chat parce que bah, c'était pas très vendeur. Donc, on a commencé à dire bourgeon de cassis, mais bourgeon de cassis, bah, personne ne sait ce que ça sent. Donc, du coup, on a encore changé aujourd'hui pour désigner toujours la même odeur. On parle plutôt de buis. Tu sais, l'arbuste, le buis, qui a une odeur bien particulière et qui est effectivement assez proche du pipi de chat et probablement du bourgeon de cassis. Et bon, le buis, c'est déjà un petit peu plus parlant, mais bon, tout le monde n'a pas cette odeur non plus, quoi. Enfin, c'est pas. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que le vocabulaire du vin, il peut évoluer. Et finalement, comme c'est un peu difficile de décrire une odeur, bah, tu prends des images que tu essayes d'être précises, qui sont bien sûr subjectives, mais que tu essayes d'être précises. Donc, tu peux avoir des descriptifs. Soit très personnel, de placard de grand-mère, ou de grange à foin, de goudron frais, de cave à cigare. Mais cave à cigare, par exemple, c'est hyper intéressant parce que, en fait, dans la cave à cigare, c'est quoi? C'est une boîte en bois, un peu humide, qui sent le tabac, tu vois. Et c'est souvent du bois un peu précieux. Donc, en fait, finalement, c'est un descriptif. Qui a l'air un peu
c'est haut de gamme.
Utile, mais en fait, quand tu la décomposes, alors, outre le fait que c'est haut de gamme, mais quand tu le décomposes, finalement, tu as des odeurs un petit peu plus, un peu plus brutes et qui sont combinées ensemble. Donc, en fait, c'est intéressant. C'est comme l'odeur de brioche, tu vois. Quand tu dis l'odeur de brioche ou de croissant, bah, en fait,
T'as
dans
le
le
beurre, t'as
brioche
le
ou le
sucre.
croissant, tu as le beurre, tu as le sucre, tu as la levure et tu as, le côté, le côté cuit, le côté torréfié, tu vois.
Oui.
Côté grillé. Donc, en fait, finalement, les descriptifs un peu très précis, finalement, bah, c'est toujours intéressant, hein, moi, je trouve. Donc, tu as des odeurs comme ça, d'écurie, alors, j'ai entendu une fois, je te disais, j'ai entendu une fois sperme de lièvre, mais je ne sais pas si c'était pour déconner ou pas.
C'est-à-dire que passer à un certain niveau, enfin ouais, comment est-ce que tu connais cette odeur ou ce goût? Comment est-ce que tu as décidé que ce descriptif correspondait à ce que tu, enfin, on s'inquiète pour toi.
Ben ouais, bah, non, mais en fait, c'est souvent quelque chose qu'on te dit quand tu te mets à utiliser ce genre de descriptif. C'est souvent la remarque qu'on te fait, ne serait-ce que quand tu dis, tu vois, bah, ça sent le caillou mouillé ou ça sent le goudron après la pluie. Il y a quand même des gens qui se disent, mais moi, j'ai jamais sucé de cailloux, je sais pas quel goût ça a, je sais pas quelle odeur ça a, tu vois. Bah, toi, tu dis, bah, moi, oui. faut avoir une vie un peu. Vous êtes pas curieux, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, ouais, ça pour dire que le ridicule dans les marqueurs aromatiques, il peut arriver assez vite parce que tu peux avoir des descripteurs très variés et parfois très, très précis. Mais souvent, c'est souvent pour la texture que là, ça s'emballe un petit peu parce que tu peux avoir des adjectifs comme ne serait-ce que le fait de dire qu'un vin est rond, bah, tout de suite, c'est compliqué, quoi. Parce que c'est
c'est une
très
forme.
imagé
Oui.
et tu vois une forme géométrique. Ok, bah, tu dis, mais quel rapport avec le vin? Bah, à partir du moment où tu essayes de décrire la texture, bah, finalement, très vite, tu essayes de prendre des images ou de le définir à contrario. Et Et tu perds très vite les gens et très vite on se fout de ta gueule. Mais donc
Oui,
tu peux
en fait,
avoir.
ce qui est moqué, c'est aussi c'est le côté prétentieux, pédant de la personne qui sait face à la personne qui pour qui le vin a le goût de vin, quoi,
Bah,
non?
y a les deux. Y a, je pense, le côté ouais, je me fous de ta gueule parce que tu es en train de te la péter, d'utiliser des termes compliqués alors que c'est juste du vin. Et je pense qu'il y a le côté, c'est pas que tu te la pètes, c'est juste tu te prends entre la tête, quoi. Enfin, juste là, essaye,
Détends-toi, c'est juste bon,
genre, ouais, là,
apprécie.
arrête de réfléchir, quoi. Enfin, faut arrêter. On parle d'une boisson, donc détends-toi. Mais tu peux avoir des adjectifs comme, tu vois. Opulent, entêtant, charmeur, démonstratif, exubérant, fuselé, baroque, précis, austère. Moi, j'aime bien, parfois, je dis des vins un peu verticaux, un peu pointus, tu vois. Mais
Raide.
bah, mais personne voit ce que je veux dire. En fait, c'est
Ah
ça.
d'accord, donc
C'est
c'est ouais.
ça qui est un petit peu compliqué, c'est que souvent, voilà, c'est. À partir du moment où tu essayes de mettre des mots sur des sensations, tu deviens très vite ridicule, que ce soit pour le vin ou pour autre chose. C'est-à-dire que définir des sensations avec des mots, bah, c'est tout de suite compliqué. Et donc, tu te mets à utiliser des mots un peu baroques, pour le coup, qui sont parfois ridicules. Mais bon, ça n'empêche pas que. Moi, je vais continuer parce que j'aime bien.
C'est un super sujet, dis donc, mettre des mots sur les sensations, tout ça. Est-ce que ça pourrait pas être un sujet d'émission un jour? On ne sait pas, on ne sait pas.
tout à fait, peut-être. Peut-être. Mais je voulais aussi parler d'un manga qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Tu connais?
Bien sûr, oui, bien sûr.
Non, mais donc, tout amateur de vin connaît ou devrait connaître Les Gouttes de Dieu parce que c'est un manga qu'il est bien à lire. Il y a un animé aussi, si je ne m'abuse, et je crois même qu'il y a une série Netflix, non?
Non, il y a eu deux adaptations, surtout en série live.
Ouais. Ah,
Euh,
ok.
une, une japonaise et une plus récente qui est franco-japonaise qui est disponible sur Netflix. Voilà.
T'as regardé ou pas? C'est bien?
J'ai regardé que la première, j'ai regardé que la japonaise, j'ai pas regardé l'adaptation la plus récente.
Ok, bon. En tout cas, le manga est très bien, et ce qui... Donc, le manga, donc c'est. Alors, moi, je n'y connais rien au manga, mais c'est un shonen, c'est ça? Ou pas du tout?
Non, c'est plus un seinen puisque ça s'adresse à un
Ah,
public un peu
seinen,
plus
d'accord.
adulte. De Tadashi Yagi hein, et de Sho Kimoto au dessin.
Donc, c'est. En gros, c'est l'histoire d'un jeune sommelier qui doit. Qui fait un peu une chasse au trésor. Qui doit retrouver des vins sous des descriptifs assez cryptiques.
Un poulet, disons-le.
Donc, une des descriptions de ces apôtres, c'est, ouvrez les guillemets, je n'ai cessé de courir en surmontant de nombreuses difficultés. En direction de la terre promise était une présence détestable. Chacun de ces obstacles au moment où il se dressait sur mon chemin. J'y trouve de la nostalgie, mais quand je regarde en arrière, bien que cela ne date pas de si loin, de la même manière, un succès remporté sans difficulté ne peut faire battre les cœurs. Si le succès est la lune, l'adversité, elle, est le soleil. Ce vin est la passion cachée. Ce vin est la source de la force pour surmonter l'adversité. Ce vin est l'ambition qui rêve d'un succès éclatant. C'est l'inoubliable écho de la victoire. Voilà.
Incroyable. Et donc,
Donc,
c'était évidemment une villageoise.
c'était voilà, c'était vieux pape, vin de la communauté européenne. Non mais c'était, je sais plus, c'était le 9e apôtre.
Neuvième apôtre, attends, je crois que j'ai ça sous le coude.
C'était un
Neuvième apôtre, ah, Brunello.
Brunello de Montalcino, 2005, Poggio di Sotto.
Le Poggio.
Voilà, donc un vin toscan. Et ça tombe sous le sens, bien sûr. Là, avec une description pareille, tout de suite tu te dis, bah c'est un vin toscan obligé, quoi. Non, mais donc c'est après moi, Les Gouttes de Dieu, c'est vraiment un manga qui est top en tout cas pour ça. C'est-à-dire que si on se sent un peu à l'étroit dans les descriptions des vins, voilà, sachez qu'il y a des gens qui n'ont pas de limite. et qui laissent vraiment exprimer toutes leurs sensations, vraiment avec tous les potards à fond. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que quand tu décris un vin comme ça, ou quand tu compares un vin à Mona Lisa, ou à deux amants dénudés en pleine forêt, il y a bien sûr Chambol, Musigny, Les Amoureuses de Roumier 99. Je trouve que voilà, c'est en tout cas c'est des images moi qui me plaisent beaucoup, même si c'est très t'extrapoles énormément sur finalement des toutes petites sensations, des tout petits indices en bouche et au nez que tu peux avoir, et c'est une extrapolation hallucinante, mais au moins je trouve que c'est une bonne manière aussi d'exprimer des sensations, des images comme ça. Je trouve que c'est toujours intéressant. Même si effectivement le côté ridicule est assez évident dans ce genre de choses, mais comme je l'ai dit, je pense que on est très vite ridicule quand on parle, quand on exprime des sensations. Et ça, c'est notre civilisation judéo-chrétienne, tout ça, tout ça.
Il y a un autre aspect un peu ridicule dans ce manga dont la publication initiale a commencé en 2004. C'est que donc le postulat du manga, c'est le décès de l'œnologue et critique de vin Yutaka Kanzaki au moment de l'apparition, donc en 2004. Sauf que pas, donc qui laisse son testament et ses 12 apôtres de Dieu, machin, donc 12 bouteilles à trouver. Sauf que parmi les millésimes qui font partie de la série au fur et à mesure, il y en a qui sont postérieurs à sa date de décès. Genre, il y a des millésimes de 2005 ou de 2007. Donc,
Il y a
comment il a fait, le gars? Comment il a fait?
il est trop
Incroyable.
fort. Moi, je pense, ma théorie, c'est que en fait, ce gars-là, c'est une divinité plus qu'un
Il
mec.
n'est pas vraiment mort. Ouais.
Bah, c'est pas qu'il est pas vraiment mort, c'est est-ce qu'il a vraiment existé?
Étant un personnage de fiction, on peut poser la question, effectivement. Revenons à nos moutons. Donc on a vu deux points importants de ce qu'on pourrait expliquer comme étant ridicule en cuisine. Ce qu'il faut prendre en compte, donc on a la prouesse technique et le côté en foutre plein la vue, par le pognon ou par le savoir. Ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est l'évolution des goûts. Donc ce qui était un dance à une époque, donc on l'a bien vu avec 70's Dinner Party ou Horace ou autre, ce qui était un dance à une époque ne l'est plus aujourd'hui. Et surtout, cette tendance à la ringardisation de la cuisine, des modes, et s'accélère puisque ben, des modes, il y en a tous les trimestres ou tous les mois maintenant, j'ai l'impression, parce que tu as une accélération de l'information, parce que tu as une accélération du partage des contenus. Le phénomène de viralité via les réseaux sociaux fait que ben, dès qu'un truc émerge, il faut tout de suite trouver la nouvelle chose qui sera virale pour rester dans la tendance. Donc c'est une constance constante qui fait que ben, les tendances de fond culinaire sont de plus en plus périssables finalement.
Et toi qui es à la pointe de la pointe, tu aurais un exemple de tendance qui sera très, très rapidement démodée en ce moment?
Alors, qui est déjà tombé en désuétude assez rapidement, même si une semi-émergence en ce moment. Ouais. Mais souviens-toi des premières saisons de Top Chef, parlons encore de Top Chef, où fallait absolument mettre des chromeskis partout.
Ah bah les chromeskis de Top Chef, oui, c'est tout
Et
un
ils
art.
sont passés où? Ils sont où maintenant ces chromeskis? Enfin, quand tu entends ce terme, maintenant,
Ah.
tu souris. C'est parce
Oui.
que c'est figé dans une époque. Sarkozy est encore président de la République, ce genre de choses, quoi.
Tout à fait, ouais.
Idem pour la grande tendance du début des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, où bah, fallait foutre du bacon absolument partout pour faire comme dans la chaîne YouTube Epic Meal Time, où bah, le principe c'était l'excès, quoi qu'il arrive. Donc du gras, du gras, du gras, de la protéine, du fast-food et tout ça, enfin junk food, etc. Et donc bah, le bacon était un leitmotiv. Aujourd'hui, on va être plus dans la retenue.
Alors,
Parce que, pas pour différentes raisons, mais ce type d'excès est moins visible aujourd'hui, j'ai l'impression.
moi j'ai lu un article sur les vidéos justement too much de recettes dégueulasses sur TikTok où justement il y a c'est vraiment des vidéos où tu vois une meuf qui met dans un énorme plat 3 kilos de pâtes, 12 kilos de cheddar par-dessus, qui vide 4 pots de ketchup, qui rajoute 4 kilos de bacon par-dessus, 12 litres de crème fraîche, qui met au four et tadam, et puis après qui coupe ça dégouline de partout, qui mange et c'est délicieux, tu vois. Mais tu vois, dans le côté, j'en fais énormément, mais et bon, après l'article que j'ai lu était un peu inquiet en disant bon, on sait bien qu'ils font ça pour justement faire réagir avec avoir de la
Oui.
visibilité tout ça, mais est-ce que ça va pas même si ceux qui font la vidéo savent que bah c'est dégueulasse puisqu'ils la mangent à la fin, donc ils sont au courant. Est-ce que ça va pas donner une fausse image de la cuisine, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont le voir, qui vont se dire, hey, super idée, tu vois?
Non, parce que je pense que là, c'est plus l'aspect performance. Là, tu regardes, ouais, t'es spectateur d'une chose, c'est pas un guide culinaire, c'est pas une recette
Ouais,
qui est livrée.
oui.
Là où, encore une fois, et c'était il y a même pas 10 ans, mais les recettes de Tasty, de BuzzFeed, qui étaient en vue par-dessus, et qui c'était des recettes qui duraient 1 ou 2 minutes, en fait, tu avais le temps de rien suivre parce que. C'était très esthétique, c'était très joli à voir le déroulement de la recette, pas en direct, hein, mais de suivre étape par étape. Mais fondamentalement, tu n'apprenais rien parce que, un, ça allait trop vite. Deux, si tu te contentais seulement de consommer la vidéo, bah, tu n'avais aucune proportion, donc tout était extrêmement aléatoire. Et trois, finalement, même si tu retrouves des contenus similaires aujourd'hui sur TikTok ou Instagram, ce qui manquait aux vidéos de Tasty, c'était la voix. Et au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne Tasty, tu vois un changement d'approche où justement on va faire intervenir plus directement le cuisinier qui va être personnifié. Ça, c'est en partie lié au succès qu'a eu à l'époque la Test Kitchen du magazine Bon Appétit, qui justement était très incarnée avec. Les gens sont devenus fans de la Test Kitchen parce qu'il y avait littéralement des personnages, même si ce sont des vraies personnes, hein, mais qui t'expliquent vraiment pas à pas dans une ambiance bon enfant, donc ça avait l'air trop cool, même si après en 2020 on a découvert que c'était pas si cool que ça. Et donc, une tendance chasse l'autre, encore une fois, que ce soit dans la présentation de la cuisine ou dans les tendances culinaires. Et donc, ce qui était cool avec Tasty, est devenu moins, a laissé la place à des trucs plus incarnés, qui de leur côté eux-mêmes ont laissé la place à d'autres formats. Donc c'est une évolution constante. Et voilà, c'est l'époque qui veut ça. Et c'est pas grave et c'est pas bien non plus. Enfin, il n'y a pas de jugement forcément à apporter, mais puisque c'est ce que veulent les gens, manifestement. Mais ça joue aussi sur le fait qu'il y a une accélération constante de la mode en cuisine. Et donc, voilà. La ringardisation et donc le ridicule, ce qu'on perçoit comme ridicule, le devient plus vite et plus souvent. Je sais pas si tu perçois des choses similaires du côté du vin, toi.
Bah non, pas vraiment parce que il n'y a pas de
Ça prend du temps à faire du vin déjà.
bah, ça prend du temps et puis c'est un milieu un peu plus conservateur ouais, où il n'y a pas des modes qui vont suffisamment vite pour être vraiment ringard. Il y a des trucs ringards, mais qui sont pas ridicules, quoi. Enfin, il n'y a pas assez de variété. Le seul truc un peu, tu vois, c'est par exemple la hype du vin bleu qui a duré un été. Bon, bah aujourd'hui, quelqu'un qui sortirait du vin bleu, évidemment, bon, d'une, je pense que ça marcherait pas, et de deux, oui, il serait un peu ridicule, mais il n'y a pas de. Ouais, non, ça s'applique pas tellement au vin, je trouve. Même s'il y a des modes, bien sûr, et il y a des changements, des évolutions, mais ça va pas assez vite pour que, ouais, que ça soit vraiment ringard, ringard, quoi.
Non, je pensais, ouais, mais par exemple, les vins très sucrés comme le Sauternes, tout ça, on en a déjà parlé par ailleurs, qui sont en crise aujourd'hui parce que les gens sont n'en consomme plus, tout simplement. C'est pas ridicule, hein, fondamentalement. Mais est-ce que c'est pas, y a pas une question quand même de dépassement, enfin, du fait que bah, c'est dur. Et comment
plus technique, hein, tu veux dire?
Ouais, comment est-ce que tu fais? Non, du dépassement, du fait d'être dépassé. Comment tu fais pour rebondir quand tu es cinquième génération de producteurs de sauternes à une époque où la mode est clairement pas la consommation de vin sucré comme ça?
Bah, tu fais du vin blanc sec et c'est ce qu'ils sont en train de faire tous. Maintenant, il n'y a pas un château de sauternes, même parmi les grands, qui fait pas un vin blanc sec. Et bon, et à plus petite échelle, bien sûr que ils s'y sont tous mis parce qu'ils n'arrivent pas à vendre le liquoreux, quoi. Mais on vous renvoie à notre épisode sur le sucre qu'on avait fait il y a
oui,
très longtemps.
Tout à fait.
Et on avait parlé un petit peu, on avait parlé aussi du champagne qui a beaucoup changé, le mode de consommation du champagne a beaucoup changé. Mais le vin est un peu à l'image de la gastronomie. On mange et on boit moins sucré, quoi, tout simplement. Donc, mais c'est intéressant parce que tu vois, le vin liquoreux, c'est avant tout une prouesse technique. Et c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est très compliqué à faire. Et je pense qu'à la base, c'est pour ça qu'on en fait. C'est que, bon, au-delà du fait que bah, c'était aussi une époque où le sucre, c'était compliqué d'en trouver. Mais c'était aussi pour frimer. C'est-à-dire, regarde, moi, ce que j'arrive à faire, non seulement j'ai eu de la saveur sucrée, j'en ai plein ma table, mais en plus, tu vois, c'est galère, je suis obligé de manger tard, de faire ci, de faire ça, de machin. Donc, j'y arrive à le faire, donc je le fais, quoi.
Ouais.
Bon, je sais pas s'il y a vraiment, on s'éloigne peut-être un peu du ridicule, mais en tout cas, le côté, je le fais parce que j'y arrive.
Performatif.
C'est dans le vin sucré, quoi.
Dernier point que je voulais aborder, il y a aussi des retours en grâce, finalement. Des choses qui étaient considérées comme ringardes et ou ridicules et qui reviennent dans la tendance. Le truc auquel je pense en premier, moi, de mon côté, c'est les fameux légumes oubliés. Qui ont été oubliés pour une raison, c'était souvent des légumes racines consommés pendant la guerre et donc les gens qui ont dû en manger à cette époque, bah justement, ne voulaient plus en manger parce que ça leur rappelait de trop mauvais souvenirs, mais aujourd'hui, tu n'as pas un restaurant qui prépare du topinambour ou des crônes ou peut-être pas de riz tabaga non plus, il ne faut pas pousser, mais en tout cas,
La capucine tubéreuse, du persil tubéreux, de la poire de
les
terre.
Les tu vois. Voilà, c'est ça. Ce genre de légumes.
Hein. C'est pas bon. Hein.
Et ça fait péter parfois. Donc... Mais donc voilà, qui font ressortir ça, qui essaient de les rendre un peu plus sexy. Il y a aussi la question des abats qui vont et viennent. Mais le riz de veau. Tu le vois,
bon,
tu le retrouves assez régulièrement.
Ouais, moi, oui. Je trouve que le riz de veau, c'est triché. Hein. Enfin, le riz de veau, ça n'a jamais été vraiment démodé, ça n'a jamais vraiment été oublié ou quoi. Là,
c'est pas la cervelle d'agneau, quoi.
Si tu parles des pieds de porc, là d'accord. Ou la cervelle d'agneau, là, d'accord. La bonne chance. Mais le riz de veau, c'est triché.
Ok, ça compte pas. Mais est-ce qu'il y a des vins qui ont eu un retour en grâce comme ça aussi?
Alors, des retours en grâce, non, pas à ma connaissance. Alors si, en ce moment, il y a un peu la piquette, qui est un truc un peu de hipster. Donc, la piquette que toi et moi et le monde entier connaît comme juste un nom d'un mauvais vin.
Ouais.
En fait, à la base, c'était un espèce de deuxième jus. C'est-à-dire que une fois que tu avais fait ton vin normal, en fait, tu remouillais à l'eau ton marc, donc tes pots, tes pépins, et ensuite tu refaisais une petite fermentation avec ce qui restait, quoi. Et tu t'en servais pour la ferme, quoi, en gros. Enfin, pour nourrir les employés, enfin pour la consommation domestique et affilée au travail, aux ouvriers. Parce que ça titrait très peu en alcool, c'était pas très bon, puis c'était fait avec les restes, en fait. Donc ça coûtait rien. Et en fait, il y a un retour de hype là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de faire de la bonne piquette, ce qui est peut-être un peu contre-intuitif, tu vois,
Ouais,
et
un
peut-être un
peu
peu
antinomique, ouais.
dénaturant. Ouais, mais c'est un peu dans la hype du no-low, donc c'est-à-dire du no-alcool ou low-alcool, se dire bah, comment on fait en fait pour faire du vin quand même bon et avec beaucoup moins d'alcool. Et aussi le côté, ça va un peu dans le mood aussi, retour aux sources. Et à l'époque, on buvait du vin qui titrait pas beaucoup et on en buvait beaucoup plus, quoi. Donc ça peut être aussi une excuse pour boire plus, hein, enfin clairement.
Oui, voilà, c'est ça. La façon dont tu présentes le truc, laisse penser ça surtout.
Bah, je pense qu'il y a un peu de ça. Après, bon, c'est peut-être subjectif, mais bon, voilà. Donc il y a un peu ce truc là qui est en train de renaître. On en parle un peu, enfin dans le milieu vraiment des hipsters, des gens très très pointus. C'était un peu le sujet, mais je pense que ça va être passé. Enfin,
Ok.
à mon avis,
Mais
ça va être
non,
passé.
quand je te parlais de mode dans le vin, je pensais plutôt à des choses comme, enfin, aujourd'hui, Bordeaux, c'est, enfin, ça n'a pas la cote auprès des
Ouais.
consommateurs. Est-ce que
Oui,
ça
mais
peut
alors
revenir
après,
en
ça, c'est
glace?
des tendances de fond, plus enfin sur des
Ok.
plusieurs dizaines d'années, quoi.
Ok,
C'est pas
ok.
des phénomènes de mode, qui vont
C'est pas
devenir
spontané,
100%
c'est ok,
ringard,
ouais,
voilà.
ok.
C'est des tendances de fond. Alors effectivement, Bordeaux qui était au sommet de sa gloire dans les années 90, 2000, début 2000, aujourd'hui ils sont au fond du trou, quoi. Et c'est la
Ouais.
catastrophe pour plein de vignerons bordelais. Alors que d'autres régions, par exemple le Jura ou la Bourgogne, là sont au top du top, alors qu'il y a 50 ans ça valait rien, pas grand-chose. Bon, pour la Bourgogne c'est un peu différent, mais
Toute
ça
proportion
valait pas,
gardée,
en
hein.
tout cas, enfin bon, bref. Un super exemple sur les phénomènes de mode, c'est le rosé. Le rosé aujourd'hui, il faut qu'il soit très clair et de Provence. Il n'y a pas si longtemps, la Provence c'était bien, mais le Rhône c'était bien aussi, et il fallait qu'il soit foncé. Et les rois du pétrole, c'était Tavel, donc au sud
Voilà,
de la vallée du Rhône. Franchement, je vois pas pourquoi dans 50 ans on reboirait pas du rosé foncé et d'ailleurs qu'en Provence. Enfin, il n'y a pas de raison. Et aujourd'hui, la Bourgogne qui est hyper spéculative avec des tarifs incroyables, il n'y a pas de raison que dans 50 ans les gens se lassent et se disent non mais maintenant c'est trop cher et puis pouf, et que ça se dégonfle comme une
bah,
autre,
c'est
quoi.
déjà
Et
le
puis
cas, enfin,
au final.
les gens ils disent. Les gens, ils disent déjà que c'est trop cher, non?
Bah, les gens comme toi et moi, oui, mais c'est pas nous qui faisons le marché.
Terrible, c'est terrible ce que tu viens de dire là.
Je suis désolé.
Je vais pleurer, je pense.
C'est un peu dur pour l'ego, mais. Non, mais je pense que voilà, il y a des évolutions, il y a des tendances de fond, et dans le vin comme ailleurs, mais plus sur des dizaines d'années que des trucs comme le chromisky ou le goût brûlé, qui finalement ont des durées de vie un peu plus courtes.
Très bien, cet épisode touche à sa fin. Qu'est-ce que tu en retiens, Bertrand?
Je retiens que le ridicule, c'est un concept intéressant et qu'on a bien fait de le traiter.
Et qu'il ne tue pas.
Et qu'il ne le tue pas et qu'il te rend plus fort. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai rien dit.
De quoi parlons-nous le mois prochain?
Le mois prochain, eh bien, écoute, fidèle à nos habitudes, ce sera un épisode mystère.
Voilà, le joli mois de mai 2024 nous promet beaucoup de surprises. D'ici là, comment fait-on pour nous contacter?
Alors, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux X, @la_grossebouffe, par mail lagrossebouffepodcast@gmail.com.
La Grosse Bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser des étoiles, des commentaires, des pouces en l'air. La Grosse Bouffe est également un podcast du label Podcut qui produit des émissions comme sur une Roomba où vous pouvez tout savoir sur les affrontements entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, super important, ou
Très
encore
important.
une certaine quantité d'émissions sur Stephen King parce qu'ils adorent ça. N'hésite pas à participer au Patreon du label par ailleurs.
Faites-le parce qu'ils sont vraiment gentils.
Oui, ça n'empêche pas. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord du label où vous pourrez échanger avec nous et voir les bêtises qu'on peut écrire parfois. C'est tout, je crois.
Bah ouais, je crois que c'est pas mal hein, déjà. Et on vous fait des bisous et puis on vous dit au mois prochain.
Bah oui, à très bientôt. En vrai, allez. Cette fois, Bertrand.
En vrai, ouais, promis.
Allez, au revoir.
Bisous.
Et aussi, je tiens à m'excuser pour la qualité absolument atroce du son de cet épisode. Je vous jure, ça ne se reproduira plus.